Chapitre 12, Rose de Malvois. Maître Léon de Malvois, le notaire noble, directeur et confesseur de tout le faubourg Saint-Germain, était assis devant son large bureau d'ébène, dans une chambre vaste et haute d'étage qui avait dû être le salon d'un ancien hôtel. L'aspect de la chambre était austère, l'aspect de l'homme n'égayait pas la chambre. Sur le bureau, une lettre ouverte était posée en vedette devant une énorme quantité de papier. La lettre, satinée et glacée, disait « Monsieur le comte et madame la comtesse Jouloux du Bréhu de Clair prient monsieur et mademoiselle de Malvois de leur faire l'honneur d'assister au bal qui sera donné le mardi 3 janvier à l'hôtel de Clair. Le travestissement est de rigueur. » Au-dessous de cette dernière ligne, il y avait une signature à la main, Marguerite, accompagnée d'un gentil paraphe. C'était une froide après-dînée de décembre, le lendemain du jour que nous avons passé presque tout entier aux environs de la Sorbonne, dans l'atelier Cœur d'Acier. Une seule lampe éclairait le cabinet sombre, deux tisons, éloignés l'un de l'autre et recouverts d'une cendre blanche, laissaient mourir le feu dans l'âtre. Au dehors, les derniers rayons du crépuscule montraient les grands arbres du jardin, poudrés de neige et lentement balancés par le vent. Nous le vîmes jadis, Léon Malvois, dans cette même maison de la rue Cassette, qui était alors l'étude de banc. Nous le vîmes par une nuit de carnaval, beau, jeune, hardi, joyeux et fou, avec un madras de femme sur le pied de son lit, demandant « Quelle heure est-il ?» comme tous ces autres fous qui allaient devenir criminels. Vous souvenez-vous, son front fier ne ressemblait point aux autres fronts de cette bohème de la basoche. Il pouvait avoir le diable au corps, mais la franchise et l'honneur étaient dans ses yeux. Il se montrait prompt à parler d'épée, mais sans rancune ni fiel, et cette crânerie d'enfant allait bien à son costume de buridan si lestement porté. Maintenant que nous le retrouvons, après ces 10 ans écoulés, il était beau encore. Peut-être encore était-il fier et hardi. Certainement, il n'était plus joyeux. Son regard couvrait la lettre d'invitation avec une fixité morne. Il pensait profondément et laborieusement. L'ambition creuse ses rides précoces, le chagrin aussi. Léon Malvois avait désiré beaucoup sans doute et beaucoup souffert. Il appuyait sa main pâle sur son front, blanc comme un ivoire et couronné de cheveux déjà plus rares. Sa bouche avait un sourire amer et triste. Êtes-vous de ceux qui croient encore aux physionomies professionnelles? Chez nous, en France, plus que partout ailleurs, la physionomie des États est morte. J'ai habité une maison du Marais où le concierge prenait le titre de conservateur. Il allait au cercle. Au cercle, on l'appelait major. Sans exagérer, il avait l'air pour le moins d'un ancien écuyer du cirque olympique. Je dis ancien, les nouveaux n'ont plus d'air. Les notaires ont résisté longtemps, plus longtemps que les avocats, plus longtemps que les avoués. Ils n'ont cédé qu'à la terreur d'être pris pour des greffiers. Je connais un homme superbe et pareil à un dieu de la fable. Sa prestance étonne les populations, sa chevelure éclate comme la neige. Vous diriez, au bas mot, un druide en habit noir. C'est un notaire. Je connais un homme plus dur que le fer, aiguisé, affilé, capable d'user la pierre du rémouleur, vivant scalpel qui saigne, amputé taille dans l'intérêt des familles, avec tout le sang-froid de Dupuytren et de Jobert. Ce couteau est également un notaire. Je connais un troisième notaire, doux, onctueux et même gluant, qui a le parfum d'un sac de bonbons endommagé par l'humidité. Un quatrième notaire, naïf et bon jusqu'à croire à son collègue. Un cinquième, au contraire, sceptique, ravagé, veuf de ses illusions, un libre penseur du notariat, doutant de sa cravate et blasphémant la déesse authenticité. Cela fait 5 bourgeois qui pourraient être aussi bien majors comme mon conservateur de concierge. Maître Léon Malvois, 6e notaire, était de la tête aux pieds un gentilhomme. Tout près de la lettre d'invitation qui venait d'être décachetée, un portefeuille de large dimension, fermé à clé, reposait sur la table, en avant des autres papiers. Maître Malvois prit ce portefeuille et l'ouvrit à l'aide d'une petite clé qui pendait à la chaîne de sa montre. Sa main lente et en quelque sorte découragée étala devant lui sur le bureau un assez grand nombre de pièces que le portefeuille contenait. Ces pièces se ressemblaient toutes. Il y avait une demi-douzaine de petits dossiers dont les chemises étaient faites de simples papiers à lettres. Chaque dossier portait un nom avec un numéro. Ils étaient rangés dans l'ordre suivant. Numéro 1, Monsieur le Duc de Clare, mort. Numéro 2, la mère Françoise d'Assise, morte. Numéro 3, Madame Marcelin, rentière, 10 rue Sainte-Marguerite, déménagée. Numéro 4, le docteur Abel Lenoir, le docteur Samuel. Numéro 5, Madame Davot, la supérieure et les dames de bon secours. Numéro 6, divers, maître de banc, la concierge du numéro 10, Lancelot, aubergiste, Toureau, chiffonnier, le tanneur, etc. Maître Léo Malvois resta longtemps immobile, les yeux fixés sur cette série de numéros et de noms. Son regard exprimait une douloureuse lassitude. Il ne souleva aucune des enveloppes. « J'ai cherché, murmura-t-il enfin, je sais tout ce qui peut s'apprendre par le témoignage des vivants et des morts. J'ai combattu, j'ai prêté mon crédit, mon temps, mon argent à un homme énergique qui ne m'avait pas dit son secret. Le coq est tombé foudroyé. L'association des habits noirs a disparu comme par enchantement et sans laisser de traces. Cela est ainsi, ou du moins cela semble être ainsi. Le coq était la tête. » Le maître, le père, le coq est mort, ces ténébreux soldats sont rentrés sous terre. Et pourtant, s'interrompit-il en posant sa main étendue sur la lettre d'invitation, le coup est parti de là, je le sens, je le sais, j'en suis sûr. Sa tête désespérée s'inclina jusque sur sa poitrine, et d'un geste machinal, il toucha le bouton d'un tiroir qui était à sa gauche, sous la tablette de son bureau. Le tiroir s'ouvrit à demi. Il le referma brusquement parce que on frappait avec discrétion à la porte de son cabinet. « Entrez, » fit le jeune notaire. Urbain Auguste Le Tanneur, maître clerc de l'étude Malvois, ancien journaliste non entièrement converti, avait peu changé depuis le soir où nous le vîmes au cabaret de la Tour de Nesle chez ce Lancelot, dont le nom était écrit là sur l'enveloppe du dossier numéro 6. C'était encore un jeune homme, et sous la maturité qui venait à ce front rieur, quelques restes d'amour pour la bamboche percée. Il n'eût pas fallu plus d'un regard pour comprendre que ce cerveau, un peu téméraire, mais droit et nettement intelligent, n'avait rien de commun avec la forte tête du roi Comérol, ni surtout avec la boîte à mielleuse coquinerie qui surmontait le long cou du bon Jaffré. Le tanneur regardait franc, quoiqu'il y eût parfois sur son visage un voile d'inquiétude et de regret. C'était un travailleur qui n'avait pas cessé d'aimer le plaisir. Il avait changé sa vie le jour où Léo Malvois, entrant en maître dans l'étude, avait dit à ses anciens camarades « Messieurs, je vous donne 2 mois d'appointement et la clé des champs ». Il avait changé de vie parce que Malvois, le gardant à part, avait ajouté « « Toi, tu es un brave garçon. Reste, mais sois sage. » Le tanneur, principal employé de l'étude depuis plusieurs années, avait voué à Léon un dévouement sincère. Néanmoins, on ne pouvait pas dire qu'ils fussent amis dans toute la force du mot. Léon avait des secrets pour son maître clerc, et le tanneur ne s'était jamais déterminé à une confession générale. L'idée d'être un dénonciateur lui fermait la bouche depuis 10 ans. Ceci n'étonnera personne parmi ceux qui connaissent le point d'honneur parisien. Le tanneur était un ancien gamin de Paris. « Patron, dit-il en entrant, les clercs sont partis. Avez-vous quelque chose à me commander avant la fermeture de l'étude ?»« J'ai quelque chose à te demander, répliqua maître Malvois. Avance. » Le tanneur fit quelques pas dans l'intérieur du cabinet. Léon reprit. Reconnaîtrais-tu bien ce garçon avec qui je devais me battre le matin du mercredi des cendres en l'année 1832? Il est mort, prononça tout bas le tanneur qui devint très pâle. Le reconnaîtrais-tu s'il vivait? Je ne l'ai vu qu'un instant, répondit le maître clerc, quand il était couché sous le réverbère, mais ceux qu'on voit ainsi restent dans la mémoire. Oui, je crois bien que je le reconnaîtrai. Léon resta un instant pensif, puis il dit, c'est bien. Et il fit un geste qui donnait congé à son maître clerc. Celui-ci ne bougea pas. Léon ajouta, cela suffit, tu peux t'en aller. L'homme de la comtesse est venu, dit le tanneur en baissant la voix, comme malgré lui, le vicomte Annibal Chioggia. Léon resta silencieux, mais ses sourcils se froncèrent. Le maître clerc continua. Madame la comtesse est une dangereuse ennemie. C'est bien, prononça pour la seconde fois Léon. Il y a aussi les deux clercs nouveaux, continua le tanneur, et le nouveau domestique. Maître Malvoie rougit. As-tu à t'en plaindre, fit-il? Les deux clercs ne veulent pas travailler, et le domestique ne veut pas servir. Ils disent qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de moi. Pour la troisième fois, Léon répéta, mais d'une voix sourde et profondément altérée, c'est bien. Patron, reprit le maître clerc, qui hésitait grandement, je me trouve connaître un fait que vous ignorez peut-être. Dès le temps de maître Deban, il y avait des personnes intéressées à posséder certaines pièces faisant partie du dossier de la famille de Clerc. Les papiers de la famille de Clerc sont intacts, l'interrompit sèchement maître Malvoie. Tant mieux, patron, car demain à 11 heures du matin, communication vous en sera demandée. Léon le regarda en face. Le tanneur poursuivit d'une voix émue. Monsieur de Malvoie, vous venez de me rappeler une époque où vous aviez quelque amitié pour moi, puisque vous me choisissiez pour votre témoin dans un duel. Après, fit le jeune notaire avec impatience. Écoutez, Léon, commença le maître clerc. Il se reprit pour dire, écoutez, monsieur de Malvoie, il est impossible que vous n'ayez pas besoin d'aide à l'heure où nous sommes. Léon se redressa et garda le silence. Monsieur de Malvoie, continua le tanneur d'un ton presque suppliant, vous avez été bon pour moi. Vous n'ignoriez pas mes liaisons avec ceux que vous avez chassés et vous m'avez gardé chez vous. J'étais un homme entraîné, je n'étais pas un homme perdu. Vous comprîtes cela, vous qui aviez si peu d'âge, et depuis ce temps-là, je suis à vous corps et âme, monsieur de Malvoie. Je n'ai pas eu lieu de regretter ce que j'ai fait, répliqua le jeune notaire qui détourna les yeux. On penserait que vous n'en êtes pas bien sûr, dit le tanneur avec amertume. Vous n'avez pas confiance en moi. Il fit un pas vers Léon et ajouta, je vous ai servi fidèlement, je le jure. Il n'y avait point de mérite à cela, mais il y avait du danger. L'œil perçant de Malvoie se releva sur lui. Si vous eussiez eu confiance, poursuivit le maître clerc, si vous m'aviez interrogé avec de bonnes paroles, je vous aurais avoué depuis bien longtemps ce qui fait ma peine. Il y a dans ma vie 6 semaines, 2 mois peut-être, que je voudrais retrancher au prix de tout mon sang. Léon lui tendit la main en souriant avec fatigue. Tu as été sollicité, dit-il, menacé peut-être depuis lors. Obsédé, attaqué, blessé 2 fois, murmura le tanneur. Ah, fit le jeune notaire. Le mot qu'il allait prononcer s'arrêta sur ses lèvres. Tu n'as pas porté plainte en justice, dit-il, donc quelque chose t'arrête et tu ne peux rien. Pour moi, c'est vrai, prononça tout bas le tanneur, mais pour vous. Léon retira sa main. Tu aimes ma sœur, murmura-t-il, tu es un fou. Comme le rouge montait aux joues de le tanneur, Léon acheva d'un ton doux et affectueux. Tu n'es pas le seul à souffrir. Tout ce que tu pourrais me dire, je le sais. Laisse-moi, ne me garde pas rancune. Le maître clerc se retira sans ajouter une parole. Malvoie mit sa tête entre ses 2 mains dès que la porte se fut refermée. Oui, pensa-t-il tout haut après un long silence, je sais tout, ou du moins je crois tout savoir, et cela ne me sert à rien, et il ne me servirait à rien d'en savoir davantage. L'heure vient, je la sens approcher, Ces gens resserrent le cercle autour de moi, le cercle sans issue. Il ne me convient pas de fuir, je n'ai pas d'armes pour combattre. Pas d'armes, répéta-t-il, avec une étrange expression d'égarement dans les yeux. Sa main toucha de nouveau, comme malgré lui, le bouton du tiroir qui s'ouvrait sous la tablette de son bureau. Sa main disparut dans le tiroir et ressortit, tenant une riche paire de pistolets de poche en ivoire incrustés d'émail. « Cela ne vaut rien pour combattre, murmura-t-il, en découvrant les capsules toutes neuves qui brillaient à la cheminée des pistolets, mais cela délivre. » Son œil fixe s'ouvrit tout rond, comme font, dit-on, les yeux de ceux que le vertige penche et attire au-dessus du vide. Il tressaillit violemment et se recula. C'était le vide, en effet, qu'il voyait au-dessous de lui. Une contraction pénible agita les muscles de sa face, tandis qu'il murmurait encore, répondant aux lugubres tentations de sa pensée, « Oh, non, non, Rose resterait seule. » Un baiser effleura son front, et une douce voix dit à son oreille, « Merci, mon frère. » Il se retourna sans étonnement. Sur son visage bouleversé, le sourire luttait contre l'angoisse. Rose de Malvois était derrière lui, souriant aussi avec une tristesse profonde. « Nous sommes donc bien malheureux, » prononça-t-elle lentement en lui prenant les deux mains. Son œil doux et vaillant, dont la prunelle d'un bleu obscur semblait noire sous l'ombre de ses longs cils, était fixé sur les yeux de son frère. Dans les demi-ténèbres qui remplissaient cette vaste pièce, sa taille gracieuse mais trop frêle grandissait amincie. Il y avait en elle quelque chose de ces visions qui passent aux heures extrêmes où la destinée étend la main pour recourir ou pour frapper. Léon l'attira contre lui et les deux bras de la jeune fille se nouèrent autour de son cou. « Tu viens de l'hôtel de Claire, » dit-il. Rose avait son manteau de velours et ses fourrures. « J'ai promis que nous irions, » fit-elle au lieu de répondre, et en pointant du doigt la lettre d'invitation qui restait ouverte sur la table. Léon baissa la tête et murmura « Pourquoi faire ?» Elle dépouilla son manteau d'un mouvement facile et charmant, elle ôta son chapeau, elle releva d'un tour de main sa coiffure affaissée. Léon la regardait, attendri. Elle s'assit sur ses genoux, comme un enfant. « C'est aujourd'hui la fin de mes 19 ans, » dit-elle. « Pourquoi n'as-tu pas laissé parler, monsieur le tanneur ?»« Tu étais là, » interrogea Léon, « tu écoutais. » « J'arrivais, comme tu disais, vous aimez ma sœur. Es-tu bien sûr qu'il m'aime ?» Léon jouait avec ses cheveux noirs qui se déroulaient en boucles splendides. « Madame le tanneur, » poursuivit-elle, « Madame Urbain Auguste le tanneur. » Malgré lui, Léon sourit. « Moi, » dit-elle, « je ne ris pas. J'ai bien vieilli depuis hier. J'ai songé au couvent, comme tu as pensé, à tes pistolets, mon frère. » « Le couvent sans vocation est aussi un suicide, et puis tu resterais seul. » « En effet, » pensa tout haut Léon, « depuis hier, petite sœur, te voilà bien changée. » Elle le regarda d'un œil sérieux. « J'étais bien longtemps une enfant, » reprit-elle, « je faisais un beau rêve, peut-être. J'ai refusé la main d'un homme dont la recherche me rendait fière, un grand esprit et un grand cœur. » « Le docteur Rabel Lenoir, » murmura Léon. « Oui, » prononça lentement la jeune fille, « cela m'étonne d'avoir osé dire non au docteur Abel Lenoir. Nous ne devons repousser personne. » Elle leva la main de son frère jusqu'à ses lèvres, et, quoiqu'il fît résistance, elle y mit un baiser en disant « Je suis une femme maintenant. Tout ce que j'ai acquis, je te le dois. Tu me demandais pourquoi nous irions à l'hôtel de Claire, au bal, quand nos deux cœurs sont en deuil, je te répondrai tout à l'heure. Auparavant, il faut que je sache... »« Il faut ?» répéta Léon, un peu scandalisé. « Cela veut dire « je veux ».»« Cela veut dire « je veux », » répéta la jeune fille à son tour. « Je veux savoir. » Et pendant que leurs regards se croisaient, elle l'ajouta. « Tu as dit à le tanneur, je sais tout. J'ai besoin de savoir tout ce que tu sais. Il y a là-dedans une femme. » Les hommes ne peuvent pas combattre les femmes. « Je ne songe plus à combattre, » murmura le jeune notaire. C'est pour cela que me voici, prononça Rose d'une voix sourde et si résolue que Léon eut un mouvement au cœur. Je combattrai à ta place, mon frère. Pauvre sœur, dit-il, Dieu m'avait donné du courage. Si je suis désespéré, c'est que tout est perdu. Mademoiselle de Malvois fixa sur lui ses grands yeux qui brillaient d'un calme étrange. « Tu n'es pas coupable, fit-elle, j'en jurerai sur mon salut. » « Demain, répliqua Léon, je passerai pour coupable. » « Demain est loin, et si les titres étaient recouvrés cette nuit ?»« Les titres ?» répéta Léon, stupéfait. « Qui donc t'a dit ?»«
Je ne suis pas superstitieuse, fit Rose, au lieu de répondre, mais certains souvenirs d'autrefois restent en moi comme des croyances vagues. J'ai été élevé dans le Morvan, où les fantômes vont sur la lande autour de l'eau qui dort. Nourrice sonore, ma pauvre vieille mère de lait, les avait vues bien souvent le long des grandes friches qui descendent des derniers sommets de la côte d'or vers le cours sombre de la Roue. Elle disait toujours, il y a des lieux qui sont faits. Elle contait l'histoire de la croix Malou, derrière laquelle chacun trouve son bonheur ou son malheur. Il est pour moi, à Paris, un lieu qui est fait, car deux fois j'y ai trouvé mon destin. Elle s'arrêta. Léon ne l'interrogea point. « Aujourd'hui, reprit-elle lentement, je suis retournée au cimetière du Montparnasse.
Toute seule ?»«
Toute seule. » »«
Il était là ?»«
Oui. » Assis non plus auprès de la pauvre tombe, mais de l'enceinte qui entoure la grande sépulture de Claire. Il aime la princesse Nita d'Epstein.
« Qui est donc cet homme ? S'écria Léon brusquement. « Tu ne me l'as jamais dit !»
Un éclair renaissait dans ses yeux éteints. Rose l'embrassa. « C'est cela, fit-elle, éveille-toi, mon frère, fût-ce pour haïr. »
« Qui est cet homme ? Répéta Malvois. « Moi aussi, je veux savoir. »
Mademoiselle de Malvois ne répondit pas. « Mon frère, dit-elle après un silence, de ce ton rassis et résolu qui inspirait à Léon tout ensemble, de la crainte et un confus espoir, tu sais ce que j'ai besoin d'apprendre, et je connais ce que tu ignorais peut-être. Tu as prononcé les mots « Depuis hier, je suis bien changé. On peut vieillir de 10 ans en un jour. Ne me traite plus comme une enfant pour qui l'on pense et pour qui l'on agit. » Je pense par moi-même je veux agir. Je n'aimerai qu'une fois, et qui donc lui donnera une tendresse pareille à la mienne? J'ai le droit de combattre. Si je remporte la victoire, je gagnerai peut-être ton bonheur avec le mien et le sien, car ma vie entière sera consacrée à le faire heureux.
Mon bonheur, à moi, murmura Léon, qui secoua la tête tristement.
Rose se leva et prit un siège à côté de lui en disant « Jusqu'à ce que tu m'aies expliqué clairement et complètement le cas où tu te trouves, nos paroles se croiseront sans répondre. Après toi, je parlerai. Maintenant, je t'écoute. »
Le regard du jeune homme se porta avec une lassitude effrayée sur les papiers qui étaient devant lui.
« Ce sera long, fit-il en se parlant à lui-même. » La jeune fille répliqua froidement « La nuit entière est à nous. »
Léon rapprocha de lui le dossier qui portait pour souscription numéro 2, la mère Françoise d'Assise, morte. L'ouvrit, non sans une visible hésitation.
« Ma sœur, prononça-t-il avec gravité, je ne connais pas de cœur plus loyal que le tien. Ceci est le secret d'une famille, et nous autres notaires, nous sommes des confesseurs. » Tu es la rivale de la princesse d'Epstein. Pourrais-tu affirmer, sous serment, que demain tu ne seras pas son ennemi ?
Sous serment, répondit Rose, je l'affirme, j'aime Nita comme si elle était ma sœur. Je jure que je l'aimerai toujours.
Écoute donc, poursuivit Malvois d'un ton solennel et presque menaçant, si d'un malheureux qu'il est, certaines gens font jamais du fils de ton père un criminel, tu comprendras du moins pourquoi il meurt ou pourquoi il se venge. »